C'est la même.
Il est
10h33
sur les ondes de Radio Royan Vercors et il est également 10h33 sur les ondes de Radio Campus Grenoble. Il est également 10h33, maintenant il est 10h34 à Villard-de-Lans, au Glovette, dans la travée numéro 13, au studio 413, où nous nous trouvons actuellement. Ici Charlène pour Radio Royan Vercors. À ma gauche, il y a Florie pour Radio Campus Grenoble. Et vous êtes en direct depuis le festival Solstice en Vercors. Bienvenue dans l'émission Sonnez les montagnes.
Tintinabula, clarine, moteur de tronçonneuse, vrombissement d'un rafale passant trop bas pour, dit-on par ici, saluer sa vieille maman habitante de la travée 3. Bêlement de nuit, aboiement de jour, l'abeille se cogne dans la baie vitrée. Poc, poc. Encore poc. Au loin, le bruit d'une tôle qu'on cogne depuis 10h16 dans la forêt. Et le jet des chênes qui s'ébrouent en se perchant sur la plus haute branche du plus jeune bouleau. Et le vitrier qui pose la baie vitrée sur la terrasse de la voisine. Et la perceuse à percussion qui tourne derrière le crépi des caves. Puis une berceuse chantée au cinquième par une maman. Au Glovette, tout sonne en écho. On voit avec les deux oreilles. Mais ce qu'on entend ne saurait être vu. Le paysage nous joue des tours, il cache les sources sonores. Sur les balcons, il fait des ricochets. Le soleil lui dicte les règles. Ciel bleu, une carabine tire du sommet de la Moucherolle jusqu'au télésiège. Ciel blanc, des cornes poussent la brume des arêtes du gerbier au bassin de la source. Gris noir, il semblerait qu'une troupe de musiciennes et musiciens guidés par un âne s'approche pour trouver refuge dans les studios. Le soleil perce au moment du zénith. Une soupe d'été cuit en sourdine dans le chaudron de cuivre. Cuillères et clochettes s'entrechoquent. Il y a dans cette prairie de plein soleil des humaines et des humains qui relèvent le défi du jour le plus long. 12 artistes ont organisé la fête des 3 jours et se sont sérieusement attelés à une grande farce, celle de faire sonner les montagnes pour braver le bourguignon. Empruntant au registre paysan, traditionnel, mythologique, carnavalesque, ils et elles ont enquêté, feutré, écrit, cuisiné, chanté, collecté, glané, réduit en cendres. Leur comptine est prête et pour ne pas rater les matines, à l'aube, se sont levés ce matin, témoins de la bascule astronomique où tout s'inverse, leur frère, l'âne, fera l'oracle. Bing bong bong, on vous souhaite un joyeux solstice.
Merci Agathe pour cet édito. C'est l'édito que vous avez écrit en introduction donc à ce festival Solstice en Vercors. Et donc, vous l'avez compris, la thématique cette année, c'est la thématique de sonner les montagnes. Donc, on va s'interroger pendant toute cette heure à ce que nous racontent les sons de ces montagnes, les échos, les discussions, mais aussi les chants des animaux, des cloches et autres. Et donc, pendant cette heure de direct, nous sommes en compagnie de plusieurs personnes autour de la table, donc dans ce studio 413. Il y a donc à ma droite Agathe pour Villa Glovette. Ensuite, il y a Clément. Salut Clément. Donc toi, tu es artiste plasticien, Clément Courgeon. Tu étais en résidence à la Villa Glovette. Juste à ta gauche, il y a Arnaud Côté. Salut Arnaud.
Salut.
Donc toi, tu es éleveur. On va pouvoir discuter plus précisément juste ensuite de vos démarches à chacun chacune. Ensuite, il y a Théophile Péris. Bonjour Théophile.
Bonjour.
Donc toi, tu es également artiste plasticien, tu as été en résidence à la Villa Glovette également. Et puis, pour finir, il y a Martin Planchot. Bonjour Martin.
Salut à toutes, salut à tous.
Et donc toi, tu es chef cuisinier également en résidence à la Villa Glovette. Et donc pour commencer, moi je voulais te donner la parole Clément, pour nous parler de ta rencontre avec Arnaud qui est à ta droite. Pourquoi, comment, raconte-nous.
Arnaud, on s'est rencontrés, je crois, une dernière semaine de novembre avec les premières neiges au Glovette. Et on était descendus à ta ferme. On était avec Théophile et Agathe. Et on était curieux de te rencontrer parce que tu avais, paraît-il, une connaissance et une collection de cloches merveilleuses. Et Théophile est un plus grand passionné de cloches que moi. Il a une collection. Moi, je connaissais pas. Presque rien, et je connais toujours presque rien, mais j'étais curieux de vous rencontrer, toi et Jean. Et donc on est arrivé dans cet endroit qui est fabuleux, qui a une odeur parfaite et en même temps un son qui est très très beau puisqu'on entend les cloches, on entend les vaches. Et en fait, ce qui est très très beau dans... J'avais envie de bosser avec le son de ces cloches, mais plus, encore plus intéressant que le son de ces cloches, C'est aussi ce que Arnaud Côté peut dire des cloches. C'est, alors cloche, sonaille, il appelle ça de multiples manières. Mais en même temps, c'est aussi son rapport au son dans son travail. Et je trouve ça absolument rare d'entendre chacun et chacune de parler du son dans son travail, que ce soit dans une cuisine, que ce soit dans un atelier d'artiste. Et Arnaud t'en parle assez bien. Et si tu veux, peut-être tu peux nous raconter comment t'as commencé cette collection de cloches. Et, alors je dis cloches, mais certainement qu'on va découvrir le vocabulaire encore mieux. Mais comment ça a à peu près commencé cette histoire de cloches?
Bah, moi, de base, j'ai pas forcément grandi dans ce milieu-là, car j'ai grandi à Grenoble, j'étais dans des quartiers, et tout petit, j'allais un peu me promener sur les terres du Vercors, de la Chartreuse, de Belledonne, l'été en montagne, et du coup, j'étais un peu plongé dans ce milieu un peu, comme on peut dire, du pastoralisme, où les cloches sont présentes. Et un jour, je m'en souviens, je suis allé à la fête des bergers, je crois, aux fêtes de la montagne à Fondurle. Et il y a un troupeau de brebis qui avait traversé toute la fête au niveau des stands. Alors ça faisait un bruit, mais du diable, tu t'entendais plus. Et ça m'avait émerveillé, j'étais fasciné par ça. Et j'avais 2 sous dans mon portefeuille et il y avait un stand où ils vendaient des cloches. Ouais, alors c'était une sonnette, car il y a plusieurs termes, mais... Et du coup, c'est là où j'ai acheté. Bon, c'était une bricole, c'était vraiment pas quelque chose de valeur, mais pour moi, c'était énorme, c'était immense. Et du coup, c'est là un peu que vraiment est né ça. J'ai toujours été fasciné par cela. Et après, de fil en aiguille, plus j'ai grandi, plus je me suis intéressé, car j'ai rencontré des amis qui aimaient ça. Et du coup, on s'est un peu engrainé là-dedans les uns les autres. Et après, on m'en a donné. Alors, c'était un peu... C'était des héritages de famille qu'on m'a donné, car ils voulaient les faire vivre encore un peu au coup des bêtes. Et après, moi, je me suis vraiment passionné dedans. Et quand on rentre là-dedans, y a tout un savoir-faire, un art de forge qui est fait. Et du coup, ça m'a intéressé. Et quand on se plonge encore plus dedans, quoi... Et qu'on aime un peu tout ce qui est musique, on arrive à jouer des mélodies, quoi. Accorder les sons, tout. C'est ce qui m'a plu.
Parce que toi, tu accordes... Donc, tu as dit sonnette. C'est quoi tous les termes? Sonnette, sonaille,
alors, cloche. Ça va vraiment dépendre des régions et des pays. Mais en gros, il y a la cloche. La cloche, c'est une pièce, c'est un métal qu'on va mettre en fusion et qu'on va couler. Du coup, c'est une même pièce coulée. Ensuite, il y a les sonnettes. Une sonnette, c'est une tôle, du coup, qui va être composée de différentes manières selon le forgeron. Et c'est une tôle qui va être plate et qui va être tapée, chauffée, puis tapée au marteau afin de lui donner une forme. Et ensuite, il y a les sonnailles. Ça, les sonnailles, souvent, c'est un peu plus un terme lié aux brebis. Mais dans les sonnailles, il y a encore 3 types. Les rodons, les pics, les clavelas et les platelles. Ouais. Alors, voilà.
Et rapidement, tu as dit que tu accordais un petit peu ton troupeau avec toutes tes cloches. C'est... Comment tu fais ça? Tu l'as fait, c'est prémédité? C'est quelque chose que vous engrainez avec tes collègues? Ou comment tu composes un peu ton orchestre?
En fait, moi, j'achète les instruments. Et les musiciennes, c'est les bêtes, quoi. Et après, l'instrument, c'est comme tout. Tu vois, moi, par exemple, je fais de l'accordéon. Et dans les accordéons, il y a plusieurs styles d'accordéons. Et moi, ce qui me plaît, c'est la musette. C'est un son différent. Dans les cloches, c'est à peu près pareil. Il va avoir des tonalités, on va dire, plus féminines, plus masculines, qui vont être graves, qui vont être claires. Le son va filer ou le son va être creux. Et ça, c'est... Les goûts, les couleurs vont dépendre de chacun, quoi. Moi, je préfère les sons assez féminins qui vont filer plus longtemps. Mais dans un orchestre, par exemple, si tout le monde joue la même note... Sur le même ton, il va pas avoir de beauté, quoi. Le but, c'est d'accorder les notes, les tonalités. Et quand tu mets des sonnettes à un troupeau, c'est pareil, quoi. Et tu as des bêtes. Après, si tu vas encore plus loin, elles vont quand, vu qu'on les connaît très bien, elles vont les faire sonner plus que d'autres. Du coup, une cloche qui tape beaucoup, quand on dit qu'il tape, c'est qu'il va faire beaucoup de bruit, on va la mettre à une bête qui va vraiment la faire vivre.
Et tu, c'est une question qui doit être évidente, mais donc tu reconnais au loin ton troupeau assez facilement, puisque tu connais le son que vous avez composé ensemble. Tu, c'est une manière de signer ton troupeau ?
Bah, un petit peu. Après, nous, dans le Vercors, il n'y a pas vraiment la culture de, des cloches. On n'est que quelques-uns à avoir cette passion. Et du coup, nous, tu vois, sur le Vercors, vraiment à mettre des sonnettes aux bêtes, on n'est pas les seuls, mais vraiment, on est fous de ça. Tu vois, on est deux, il y a moi à Angers, et il y a Jean bah, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est à Corançon, quoi. Et oui, après, si vraiment tu prêtes attention, moi, entendre une cloche, je peux te dire quelle vache c'est.
Ah ouais.
Elle, mais après, il y a des... Parce que j'achète vraiment des particulières et différentes. Si j'achète les 10 mêmes, je n'aurai pas de facilité à reconnaître, quoi. Et moi, c'est ce que je recherche, justement.
Tu veux à chaque fois un son différent.
Un orchestre, c'est beau quand il y a plein d'instruments.
Ouais.
Mais voilà, c'est à peu près... Et ouais, moi, je veux plein de sons différents, bien sûr.
Et moi, j'ai une petite question pour rebondir sur cette discussion. C'est est-ce que, en fonction de l'endroit où ton orchestre va jouer, le son va se propager différemment ? Est-ce que tu trouves qu'il y a un écho qui est différent entre une prairie et une autre, un bosquet et un autre ?
Oh, bien évidemment. Bah, déjà... Non, on est, bah, je veux dire, dans le milieu montagnard, dans les montagnes, le relief est différent de partout. Un troupeau va pas sonner contre une barre rocheuse. Par exemple, nous, à Angers, pour ceux qui connaissent, quand on monte sur le plateau du Vercors, les Gorges d'Anzin, nous, le village, d'un côté, il y a la falaise, et de l'autre côté, c'est les, des pentes. Et du coup, nous, le troupeau, on va l'entendre de très loin, même s'il est... il est très éloigné de la ferme, avec l'écho qui va se réverber sur nos falaises, on va l'entendre. Du coup, ça fait une résonance et un son qui va filer bien plus longtemps. Et tandis que des fois, on va pouvoir mettre nos troupeaux dans des combes, et le son sera mélodieux, mais sera bien plus creux. C'est un son qui va pas filer plus longtemps, quoi. Alors la mélodie, elle est toujours agréable, mais elle n'est pas la même, quoi.
Est-ce que Clément, tu veux nous parler un petit peu de comment tu as fait cette rencontre avec Arnaud ? Donc Arnaud, je précise que tu es éleveur, Arnaud Côté, à la ferme des Rapilles à Angers. On n'a pas cité le nom de ta ferme. Mais comment est-ce que tu l'as rencontré au sein de cette résidence à Villaglovette ?
Je l'ai rencontré avec Théophile parmi les... Arnaud, je crois que c'est l'une des premières personnes que j'ai dû rencontrer dans cette résidence. Et c'était vraiment une rencontre. Je ne connaissais rien au sujet et c'est aussi beau de parfois aussi en résidence, c'est d'aller vers là où on. Moi, je suis pas du tout du Vercors ni même d'endroit. Je suis à peu près d'où tu viens, Arnaud, c'est-à-dire d'une grande ville plate qui est la région parisienne. Et donc pour moi, les cloches, j'ai jamais vu de. Il y a pas de vache chez moi. J'ai grandi. Une sorte d'endroit où on fait juste que du colza et il y a un aéroport juste au-dessus, donc il n'y a pas de cloche. Et donc c'était peut-être aussi un fantasme total d'artiste à dire ah là là, le son fabuleux de ces cloches. Et finalement, je trouve que ce qui est très très beau, c'est évidemment tout l'objet, la tradition de comment toi Arnaud tu récupères tes cloches. Arnaud me racontait aussi que l'été parfois il allait bosser en Suisse. Et ta passion dévorante pour les cloches, ça faisait que tu revenais avec plus d'économie et t'allais dépenser tout, tout dans les cloches. Donc cette manière, ce dandisme des cloches est absolument délicieux. Et puis en même temps, il y a le son des cloches et puis il y a aussi le vocabulaire que chacun, chacune peut employer pour son métier. Et je sais pas, j'avais une question à Arnaud, parce que c'est vrai que quand un artisan, je sais pas, un potier va travailler à l'atelier, bah souvent il y a un brin de radio. Je sais que Théophile Péris, il met toujours de la musique, d'autres c'est des podcasts, d'autres dans le silence. Mais est-ce que toi, Arnaud, tu te rends compte encore du son, parce que tu siffles très bien aussi, parce que tu, c'est peut-être tu t'en remarques pas, mais de tous les sons de ton environnement professionnel. T'as encore conscience de ça ou finalement ça devient... Est-ce que toi-même tu mets de la radio, tu mets de la musique ou c'est une sensibilité qui te... qui te touche encore ou c'est tellement ta routine que tu l'oublies parfois?
Bah alors bien sûr, quand on est tout le temps dans un train-train, il y a certaines choses qu'on oublie. Mais les bruits du quotidien, nous à la ferme, ça va être le bruit du tracteur, le chien qui aboie, le coq qui chante, le marteau sur un clou. Mais je veux dire, après, moi, tu vois, ces sonnettes, ces cloches, ces sonnailles, quand je les entends, que ce soit chez moi ou ailleurs, je prends vraiment le temps de m'arrêter et d'admirer, quoi. Le soir, nous, quand on finit de traire, ou le matin, quand on va attaquer, moi, le matin, quand je vais chercher mes bêtes, lever mon troupeau, c'est un moment, bah, c'est moi et elle. Et on est pas que tous les deux, quoi. Du coup, on est une quarantaine en tout à admirer ça avec elle. Mais j'aime vraiment prendre le temps. Moi, dans mon métier, je ne vais pas mettre tout le temps de la musique. J'aime pas ça. J'aime vraiment écouter ce qui se passe, quoi. Comme par exemple, quand je vais travailler, bah ouais, c'est pas désagréable, mais j'aime le son du tracteur, j'aime écouter ce qui se passe autour. Du coup, oui, ça devient, des sons deviennent un peu un train-train, mais quand je fais quelque chose en particulier, bah, j'aime l'apprécier, tu vois, ce son.
Et alors, Martin, donc toi, tu es chef cuisinier. Est-ce que les bouillons, est-ce que les casseroles chantent également?
Oui, absolument. On a une image, je pense, d'une cuisine très bruyante, du brouhaha, des ustensiles. Je pense que plus on grandit en tant que cuisinière, cuisinier, plus on apprend justement à cuisiner au son. Et parfois, un peu par accident, moi, j'ai vraiment développé ce sens-là. Et maintenant, c'est un sens, même si je cuisine en musique la plupart du temps, je fais toujours attention à ce qui se passe dans la casserole. Et en fait, j'ai vraiment... La première fois que j'ai été introduit à cette dimension-là de la cuisine, c'était au Québec. On travaillait en hiver le topinambour et on réalisait cette purée de topinambour caramélisée. Donc on pelait les topinambours, on les éminçait fins et dans un grand rondeau, on les faisait suer. Et au bout d'un moment, si on fait suer, c'est comme un peu les oignons, si on les oublie, ça caramélise. Et donc la sudation qui va être devient quelque chose qui est plus comme ça. Et ça, c'est la caramélisation. Et ensuite, on va récupérer ces sucres. On gratte. Et ça va enrober ce sucre du topinambour en l'espèce. Et ensuite, on va le mixer. On aura une purée vraiment couleur chocolat. Et donc, ça, cette caramélisation, ensuite, elle m'a suivi. Et partout... Je sais que c'est la limite avant que ça crame.
Est-ce que, Agathe, tu peux nous parler de cette présence d'un chef cuisinier en résidence au festival? Parce que c'est vrai que c'est un festival d'art contemporain. Donc on s'attend à trouver différentes formes d'art, qu'elles soient sonores, plastiques, visuelles, surtout même performatives. Est-ce que tu peux nous parler de la cuisine et peut-être en discuter ensemble?
La cuisine, depuis le tout début de la programmation du Solstice en 2022, a eu sa place. D'ailleurs, la toute première édition du Solstice s'appelait, à chaque fois je me plante, alors je vais me concentrer, Nourriture céleste, non, paysage nourricier, nourriture céleste. Il s'agissait en fait de dire... Où est-ce qu'on est, déjà, en fait? Pourquoi on veut faire quelque chose? On est dans un endroit, en fait, qui nous inspire par ces paysages et qui nous nourrissent l'âme. L'art nous est nourricier, c'est avéré. Mais par ailleurs, ce qui nous nourrit, en fait, tout ce qui est rendu possible dans le Vercors, c'est lié au pastoralisme. Et c'est bien le pastoralisme qui a ouvert le milieu dans le Vercors, comme dans d'autres montagnes ou moyennes montagnes. Et donc, on s'est dit, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire l'économie de l'agriculture et de l'agricultrice, des éleveuses et éleveurs, des personnes qui transforment et qui après, du coup, si ces personnes rentrent dans la boucle, et ben forcément il y en a d'autres qui arrivent, comme Martin, et qui eux, en fait, vont s'emparer des histoires, des gestes et qui vont venir proposer de rejouer les gammes d'un territoire qui se connaît, on mange très bien dans le Vercors, on produit beaucoup.
on est vraiment, hein, on est, enfin, je pense que Arnaud, tu peux l'affirmer avec moi, on est hyper riche au niveau de nos productions locales.
Totalement, oui.
Enfin, je veux dire, on a, tu m'aider à énumérer tout ce qu'on a ou...
Bah, déjà, le Vercors, il est connu pour son bleu du Vercors. Un fromage à caractère, mais avec une grande douceur. Il y a la noix de Grenoble qui est pas très loin, les ravioles de Royan, la truite du Vercors.
Alors là, tu parles beaucoup des AOP ou des AOC, mais derrière, il y a aussi tous les... Finalement, on a tellement de gens qui produisent...
Ah bah, sans parler des producteurs, oui, ça élèvent, c'est sûr. Voilà. Mais autour de tous ces produits, il y a tout un dynamisme, des personnes qui sont un peu dans l'ombre, qu'on voit pas, mais qui font vivre ce territoire.
Bah, donc en tout cas, voilà, nous, c'est vrai qu'on se branche à ces personnes de l'ombre et on invite des artistes dont on suit le travail, qu'on repère, où on se dit, tiens, ça ferait un super beau match, comme on dit. Et à un moment donné, ben, on est 4 ans après notre première édition et Martin Planchot, ça faisait beaucoup de sens par rapport à cette... Alors, il en parlera mieux que moi, mais il parle de la commensalité. C'est vraiment le mot que Martin aime transmettre. Et c'est... qu'est-ce qui se passe autour d'une table, en fait ? Il se passe toujours plus que l'acte de manger. Il y a comment on se nourrit les uns des autres et les uns avec les autres. Et l'art, à Villaglovette, depuis le début, on l'envisage comme une matière nourrissante et nourricière. Et donc, voilà, on a toujours, pour les solstices, fait collaborer des personnes issues de l'agriculture ou du pastoralisme avec nos artistes. D'où ce que racontait Clément, en fait, on fait toujours des petites phases de repérage à l'automne en général pour que les artistes s'imprègnent, dont Théophile et Clément étaient venus à la ferme des Rapies à la rencontre d'Arnaud et Jean. Et pour revenir à la cuisine, et ben, en fait, cette dimension qu'on peut appeler... Alors, cette année, ce n'est pas du design culinaire. Martin, il est chef, il est cuisinier. Il vient pas, il pense pas du tout design. Martin, c'est quelqu'un qui est dans le concret de combien de personnes il faut nourrir, combien ça va coûter. Il fait un peu des challenges comme ça à être sous le prix de la cantine, en fait. C'est combien le prix de la cantine, Martin ?
2,30 €.
2,30 €. Et là, on est à combien à Villaglovette ?
Là, si tout va bien, avec la demi-meule de raclette qu'on doit racheter pour ce soir, ah oui, ça va dépasser un petit peu. On est à 1,75 €.
1,75 €. Mais oui, voilà. Donc, en fait, et ça, c'est hyper concret. Tout d'un coup, c'est de dire... dans la création contemporaine, la cuisine a sa place. Parce qu'en fait, si tu veux monter un festival, surtout qui dure 3 jours, on est un peu excessive à Villaglovette, mais de l'aube au coucher du soleil et être très sérieuse avec ça, eh bien, il faut être accompagné et rassasié. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui pense, en fait, le bien-être des troupes. Et ça passe par la cuisine.
Et donc, Martin, là, on a parlé de plusieurs mots. On a parlé de commensalité et on a parlé aussi de cantine. Ce qui peut... Enfin, la notion de cantine, elle peut paraître contrastée quand on parle d'un chef cuistot. En tout cas, est-ce que tu peux développer un peu ce que ça représente pour toi dans ta pratique ce mot de la cantine, en fait, ça installe aussi une autre manière de manger ensemble.
Non, absolument. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction entre la bonne cuisine et la cantine. Au contraire... C'est juste un processus qui s'est industrialisé. Je pense que justement, aujourd'hui, on doit s'emparer de cette forme, se réapproprier cette forme de restauration qui est l'endroit, donc un endroit nourricier et de la commensalité. La commensalité, c'est l'acte de partager un repas et aussi de bénéficier de tout ce qui peut se passer à travers ce moment. Mais c'est aussi l'occasion de faire valoir ce partage de connaissances que représente l'acte de manger. Et donc ici, et c'est pour ça que j'ai pu observer, suivre une intuition et à travers plusieurs expériences la confirmer, de ce glissement du restaurant à la cantine, c'est que pour moi, la cantine, c'est le lieu de l'accompagnement. Et ici, c'est ce qui se passe, en fait. Donc, sous la forme... de plusieurs interventions. Hier, on a fait un bar à soupe. Ce midi, on va faire des banh mi du Vercors. Ce soir, on va faire des bruschette italiennes. Demain, on fait un banquet cantine en collaboration avec Guillaume Montjuré, qui a ce restaurant étoilé à Méaudre, le Palais Grillé. Et donc, en fait, ça invite à plein de formes de réflexion qui sort du menu classique du restaurant. Et donc, pour moi, c'est un mode extrêmement versatile, vertueux, efficace, nourricier et peut-être souvent beaucoup plus créateur de souvenirs que simplement aller manger au restaurant.
et créateurs de liens les uns les autres quoi, autour de la table. C'est vrai qu'il ne se passe pas la même chose quand on est attablé à une table de cantine. Ça installe aussi une manière d'être à l'autre.
Non, bien sûr. Et puis même dans le format cantine, il y a plein de choses qui se passent. Même assez rapidement, cantine fait appel à la cantine scolaire. Et du coup, on se revoit porter notre plateau, s'approcher d'un banquet froid, pas très appétissant, peut-être un petit peu saisi de l'angoisse de où est-ce qu'on va s'asseoir, est-ce qu'on a envie ou d'éviter de s'asseoir à côté de personnes ou de les éviter. Mais justement, en fait, aujourd'hui, je pense que je parle au nom d'une génération de cuisinières, de cuisiniers aussi, qui ont décidé de se réemparer de cette question qui est au final une mission de service public, nourrir, à savoir déconstruire cette image négative de la cantine et la représenter comme la replacer au centre, sortir de l'alimentation du marché et la replacer au centre de ce que c'est vraiment manger ensemble. Et pour moi, c'est le format idéal.
Je veux bien rajouter un petit truc parce que c'est marrant que tu dises créer des souvenirs, en fait, que c'est la chose qui t'intéresse. À Villa Glovette, on cherche beaucoup finalement à produire cette chose-là, à créer des rencontres inédites dont le public se souviendra. C'est vraiment la chose sur laquelle on travaille, en fait. On n'est pas un centre d'art, on n'a pas vraiment de vocation à le devenir. Quand nos artistes sont en production, on leur dit voilà, t'as tel budget de production, et en fait, on pense à quelque chose d'éphémère qui est créé in situ, qui se nourrit, c'est le cas de le dire, des rencontres d'ici avec des habitantes et habitants du Vercors et des gens qui transforment, que ce soit dans la terre ou les savoir-faire artisanaux ou finalement d'autres catégories socio-professionnelles. Et c'est vrai que cette chose-là, on se dit que c'est notre mission, elle est sans doute là. C'est d'écrire peut-être une nouvelle tradition en activant ce solstice d'été, parce que c'est un peu... à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi le solstice n'est pas célébré dans le Vercors? On ne comprenait pas pourquoi il n'y a pas vraiment des feux de la Saint-Jean. Alors, le Vercors est très vaste, c'est 6 pays. Je parle des 4 montagnes. Sur les 4 montagnes, on le sait, il y a eu déjà, bien sûr... la guerre a transformé beaucoup de choses. Et puis après, le tourisme s'est emparé du grand récit. Et nous, on essaye de se reconnecter au cycle du vivant par l'art. Et vraiment, en faisant ce pari que si on invente une tradition, après tout, qui serait un peu la nôtre, à bricoler des petites choses ici, des petites choses là, et à se dire, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, les gens s'en souviendront ou continueront à la célébrer. On ne sait pas, mais c'est ça qui nous intéresse vraiment.
Trop chouette. Et moi, j'ai envie de rebondir sur ce lien à l'autre et l'aspect collectif aussi que vous essayez de mettre en place. Chaque année, en tout cas, j'ai l'impression que les artistes créent des temps de rencontre aussi avec les habitants. Et moi, je vais te poser une question, Théophile. C'est que j'ai l'impression que dans ton processus de création, donc tu viens créer des grandes pièces de feutre. Peut-être que tu peux mieux nous en parler. Ouais. J'ai l'impression que cette dimension où tu invites les gens à venir te rejoindre à un moment donné dans ton process, c'est important pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui. Pour définir un petit peu, le feutre, c'est donc une matière, un textile non tissé qui est fait à partir de laine de mouton. Et c'est une technique qui vient d'Asie centrale, précisément des steppes mongoles. Et puis après, ça s'est propagé comme ça vers l'ouest, jusqu'aux portes de l'Europe en Turquie. Et moi, je me suis intéressé il y a 6-7 ans à cette matière-là. Et d'abord, je l'ai utilisé, enfin à la laine précisément, pas au feutre. D'abord, je l'ai utilisé brut, simplement pour recouvrir des structures et puis l'utiliser pour ses propriétés de surface brute assez sculpturale, quoi, un peu entre végétal et minéral, et en même temps c'est du poil, donc il y a aussi la présence de la bête, il y a l'odeur, tout ça. Et puis après, en tombant sur YouTube sur des vidéos de feutrage en Mongolie, quand ils fabriquent en fait les feutres des yourtes en été là-bas, j'ai vu donc ces vidéos où on les voit battre de la laine avec des bâtons pendant des heures pour faire un cardage donc étirer les fibres, et ensuite les répandre sur une sur un feutre déjà fait, comme un peu un feutre mère, quoi. Et ensuite, ça c'est encordé, c'est enroulé autour d'un rondin de bois, puis attaché à un cheval, et puis ils le font rouler 5 à 6 fois 25 km, donc il faut plus de 100 km pour faire un feutre. Et donc tout ça avec de l'eau froide et sans savon. Et donc je me suis dit, quand on voit quand il déroule la première fois, on voit que la laine hyper épaisse, elle est devenue toute plate comme ça, elle est pleine, enfin avec le processus du feutrage, je me suis dit, mais tiens, moi j'ai envie d'y ajouter des couleurs de laine brute, parce qu'en fait j'avais des toisons assez colorées, il y avait du gris, du brun, du noir, du blanc, du beige, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le feutre. Et puis progressivement, en fait, je me suis rendu compte que quand on va dans une tonte de brebis, on se rend compte, même quand on voit un troupeau, on voit la multitude. Mais dans une tonte, en fait, ça se matérialise par un tas de laine énorme ou des énormes sacs de laine. Donc tout de suite, cette logique de faire un peu plus grand que ce que j'avais prévu de faire à la base, elle est arrivée. Et au bout d'un moment, passer la largeur de mes bras ou de ma force physique, je peux plus faire grand-chose. Donc c'est là où j'ai demandé d'abord à des amis et puis ensuite à des bénévoles de venir me donner un coup de main. Donc pas tant sur la partie dessin, parce que c'est une petite zone que je me garde pour moi, mais ensuite pour tout l'aspect technique du feutrage, où j'invite donc les gens à venir, et puis généralement, là, Agathe avait fait un super repas, une super bonne salade pour remercier, des cafés, des thés, tout ça. Et puis aussi, j'aime bien raconter, j'aime bien parler, j'aime bien apprendre et transmettre. Et donc, quand il y a ce processus collectif, donc il faut rouler à plusieurs le feutre bien serré pour éviter que les motifs se défassent, tout ça. Donc en fait, pendant tout ce temps, en fait, je parle dès que je sépare une nappe de laine pour dire comment les fibres elles sont, dans quel sens, quel type de fibre c'est, d'où ça vient. Et donc les gens qui ont eu vent de cet événement-là, ils viennent aussi soit parce qu'ils ont envie de savoir un petit peu plus de choses sur la laine, soit parce qu'ils sont déjà hyper intéressés et qu'ils ont envie de voir mon approche, tout ça. Et puis, des fois, il y a des gens qui m'apprennent des choses aussi. Enfin, du coup, à chaque fois, c'est vraiment des moments. Et puis, y a, par rapport au son, je reparle un peu du son, c'est que dans le feutre, il y a un truc qui est hyper important, c'est dans le son, c'est que c'est le rythme qui fait que ça feutre. Parce que si on... En fait, on voit bien quand on travaille, si on fait un rythme régulier, le travail, il est efficace. Et du coup, quand on feutre, on pousse avec le pied, donc on fait rouler le feutre et on tape dessus avec le pied. Et ça, il faut le faire en rythme. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un moment où il y a une communication entre les personnes, c'est presque chorégraphique, et à chaque fois, on arrive au bout, on se retourne pour toujours tourner dans le même sens, et on repart. Et donc, moi, souvent, je dis pousse, tape, ou roule, tape. Et... voilà, des fois après, au bout d'un moment, on se met un peu de musique parce que, bon, moi, j'aime bien écouter de la musique quand je travaille. Et ouais, voilà.
Ouais, donc c'est vraiment, ça va au-delà, enfin, il y a les corps qui sont impliqués, quoi. C'est vraiment une œuvre presque collective, une petite performance collective quand vous êtes en train de feutrer. J'ai vu aussi, juste avant qu'on commence le plateau radio, tu as appelé les personnes qui sont autour de cette table avec une sorte de grande corne en verre. Qui a fait un son assez puissant, qui s'est répandu, j'imagine, à travers toute la travée des Glovettes.
Moi, je peux dire, j'étais à la travée 16 sur mon ordinateur en train de bosser. Donc, j'habite à la travée 16 et je t'ai entendu, j'étais là, waouh, c'est l'heure. Donc, parce qu'on a calé des appels pendant tout le week-end dont Théophile est responsable. Et effectivement, c'est notre sonneur, quoi. Et merci, ouais, c'est vrai que ça marche très, très bien, en tout cas.
Et est-ce que, donc, c'est vraiment des sortes de cornes en verre. Et moi, j'étais assez étonnée de voir le verre comme matière, pour on a l'habitude de voir peut-être du bois ou du métal pour ces cornes-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est toi qui l'as fabriqué?
Donc, on a collaboré, enfin, Agathe et avec Clément, Agathe au repérage, on est allé rencontrer des verriers, c'est les apprentis sorciers, et Nicolas et Sophie.
Et ils sont à Lons-en-Vercors.
Et donc, on leur a montré un peu ce qu'on faisait. Puis, ils étaient enthousiastes de bosser avec nous. Et on s'est redonné rendez-vous il y a quelques semaines pour l'allumage du four et puis la fabrication des cornes de brume. Parce que moi, entre-temps, justement, avec ces histoires de vaches, avec ces histoires de sons, les appels, les cornes d'appel, en fait, c'est des objets qu'on retrouve beaucoup dans les fermes. Des fois même, c'est assez beau parce que c'est des conques, donc des coquillages de mer qui se retrouvent dans les montagnes à des milliers de mètres d'altitude pour rassembler les vaches, pour les appeler, pour communiquer, tout ça. Et comme on y avait aussi ce titre « Sonner la montagne », enfin, d'un coup, je me suis dit, bah, tiens, cette idée de corne de brume, parce qu'en fait, une corne de brume, c'est tout simple, c'est vraiment un cône avec un trou qui faut un diamètre à peu près d'1 centimètre. C'est vraiment n'importe quelle corne, on prend une corne de vache ou un tube ou un tube de cuivre, par exemple, hop, on souffle dedans, on fait le bruit de trompette, quoi, avec les lèvres, bah, ça fait vibrer la matière. Et en fait, on peut faire avec les cornes, bah, enfin avec à peu près tout ce qu'on veut. Et je me suis demandé si avec le verre, ça allait marcher, parce que j'avais peur qu'avec la vibration, ça pète, parce que ça vibre quand même fort. Parce que le verre, elle a des contraintes un peu particulières, c'est très cassant, c'est une matière qui est instable, en fait, tout ça. Et en fait, je me suis... Non, bah on l'a tenté avec les verriers. On a fait différentes formes parce que voilà, la corne, on peut, c'est un peu infini quoi, comme on peut faire en plus en verre, c'est toutes les couleurs, toutes les différents. Ils nous ont montré ça quoi, tout ce qu'on pouvait faire de différent. Et on a fait même une sorte de corne en forme de spirale, un peu des cornes qu'on a déformées au chalumeau. On a mis des couleurs particulières. Enfin, on s'est amusé. Et au refroidissement du four, le lendemain, enfin 2 jours après, on est arrivé, on a coupé là où les cornes elles étaient attachées à la canne. Enfin moi j'ai pas vraiment manipulé le verre parce que c'est très technique. On a un petit peu soufflé avec Zoé, une stagiaire de la Villa Glovette. Et en fait ouais ça marchait super bien. Et elles ont toutes, comme elles ont des formes différentes, elles ont toutes des sons différents. Et ici à la Villa Glovette, enfin, en Glovette, entre les barres d'immeubles et la configuration de la vallée, la topographie, il y a une résonance qui se crée entre les arbres, les murs, les surfaces, l'écho dans la vallée. Et quand on sonne, on sent que le son s'en va jusqu'à la route en bas. Ouais, entre la route entre... Je pense qu'on pourrait l'entendre de la route en bas.
De Corançon. Ouais, peut-être depuis Corançon. On leur demandera. Alors moi, je veux bien rajouter un truc sur la topographie des Glovettes parce que plus le projet Villa Glovette avance, il est né en 2020. On a créé l'association en 2020. On a accueilli nos premiers artistes à l'automne 21. Donc, je rappelle le principe, on accueille à l'automne et au printemps des artistes en résidence qui passent 3 à 6 semaines en fonction des subventions qu'on arrive à lever en résidence. Et les résidences sont propices pour des rencontres. En fait, on se défend de faire une tour d'ivoire autour et avec l'artiste. Donc, en fait, le studio est ouvert. Et d'ailleurs, c'est littéralement le cas. Là, on est au 413. La porte est ouverte. On est au rez-de-chaussée. Et en fait, quand les artistes sont là, ça permet de vraiment, de manière augmentée, vivre cette architecture qui a été follement pensée par 3 architectes qui ont la commande dans les années 70 par un promoteur qui vient du sud d'installer un mini village en fait à 1260 mètres d'altitude juste au-dessus du balcon qui est déjà créé pour les JO de Grenoble en 68. Et donc les Glovettes, le projet c'est d'accueillir jusqu'à 5000 personnes en période haute, mais les périodes hautes bien sûr sont l'hiver et l'été, donc on est sur un rythme très binaire. Et l'angle mort en fait du hors-saison que sont l'automne et le printemps sont quand même les deux plus belles saisons, j'ai envie de dire. Et je pense que voilà, je vois Arnaud qui fait oui oui en face de moi. Il sait de quoi je parle. Et au Glovette, c'est dément parce que on a l'impression que les architectes ont fait tout pour qu'il y ait une résidence d'artistes qui se crée et que les murs soient sonnés et que le paysage soit sonné et qu'il y ait des performeurs comme Clément Courgeon qui se lève à l'aube pour sortir avec un chaudron de cuivre sur le dos pour faire briller le soleil qui sort des arêtes du gerbier. Et que en fait, nous, on est là, on vient juste révéler ce qui est en présence, quoi. Donc, les architectes ont très bien travaillé déjà l'implantation du bâtiment, qui est un cirque naturel. Ils n'ont pas construit à la verticale, ils ont construit à l'horizontale, ce qui change tout dans les formes, dans la philosophie, dans le rapport aux choses et au monde. Et on oublie qu'il y a potentiellement 5000 personnes qui peuvent être accueillies ici. Le bâtiment apparaît et disparaît dans le paysage. Et nos artistes, finalement, c'est vraiment le pari qu'on fait avec elle et eux, c'est de dire, ben, qu'est-ce que ça fait d'être ici, en fait ? Comment ça infuse ? Et on a des artistes qui arrivent en résidence avec 1000 idées. Et en fait, au bout de 3 jours, ils buguent et ils disent ah ouais, alors attends, là, faut que je... ouais, là, il faut juste que je sorte me promener et que j'écrive face à la Moucherolles. Ou voilà. Et le bâtiment, il l'aide beaucoup, quoi. Et donc, c'est vrai que ce solstice, avec les artistes programmés cette année, on est vraiment en train de cueillir et de goûter ça, quoi. Et je suis certaine que les architectes y ont pensé. je le sens, je sais pas. C'était prévu.
Comment vous avez choisi votre thème du Sonner les montagnes ?
Alors, Sonner les montagnes, c'est marrant, on a un chat. Il y a 8 ou 9 administratrices à Villa Glovette, plus moi qui suis la seule salariée, plus nos 2 super stagiaires, Zoé et Chiara, qui viennent de rentrer dans le studio, plus tous les artistes programmés. Ça fait un paquet de monde. Ouais. On soumet toujours, chaque année, le titre du solstice au groupe. C'est hyper important pour nous que ça résonne, que ce ne soit pas imposé par l'asso. Et en fait, on s'adapte aussi aux artistes, c'est-à-dire que les repérages, ils sont importants pour cette raison. On prend un peu tous la température ensemble. On se dit, tiens, comment ça va causer, comment on va partager, quelle est la grammaire et le vocabulaire de Clément, celui de Théophile. Mmh. Par exemple, c'était un vrai pari esthétique. En fait, moi, je disais en rigolant, avant que vous arriviez en résidence, Théophile et Clément, c'est notre plus grand écart esthétique réalisé jusqu'à présent, de vous coprogrammer. Et en fait, ils se sont vachement bien entendus et ils s'entendent très bien. Et je souhaite qu'ils continuent à travailler ensemble, j'en suis sûre. Et ça, c'est très joyeux aussi de savoir que Villa Glovette permet des rencontres entre artistes qui vont continuer des collabs. Mais pour répondre à Florie, ce titre, on s'est un peu bagarré. On a fait un sondage. On a dit, bon, alors... Je ne sais plus, il y avait ça sonne, il y avait la soupe qui était très importante, le motif de la soupe, le motif des montagnes, le motif de comment ça sonne. Tu te souviens, toi, Clément, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme motif ?
Non, je me souviens surtout que c'était un peu un cadavre exquis, ce qu'on avait. La semaine de repérage était très fertile, on avait beaucoup de mots, beaucoup d'idées. Et puis après, les titres, ça arrive toujours trop vite. Donc, on réunit vite et puis on doit se décider en une demi-heure d'un titre. Mmh. Et Sonner les montagnes, en fait, ça résonne, je pense. L'idée, c'est d'avoir un titre qui nous correspond à toutes et tous.
Complètement.
Et là, juste. Il y a un chat, il y a un sacré chat.
Théophile vient de l'ouvrir. Donc, le sondage, c'était, il fallait mettre des croix, quoi. La montagne qui sonne, faire sonner la montagne, fouler les pentes. On a parlé de la pente aussi. Okay. Fouler, par rapport au geste de Théophile, fouler la montagne, fouler pentes et montagnes, tintinabula de la montagne, l'écho de la montagne, l'écho des pentes, l'écho d'en haut, le bourdon d'en haut, carillon des pentes, sonaille, pente et montagne. Et finalement, c'est sonner les montagnes qui est sorti. Aussi, bien sûr, adossé à une comptine bien connue qu'on connaît tous et tous, sonner les matines. Et c'est pas anodin, en fait, sonner les matines, parce que qu'est-ce qui sonne aussi ? Comment l'humain, il cède de quelque chose qui revient pour régler son calendrier, sa journée, sans parler de comment la religion nous a à structurer dans nos sociétés, en fait, de par l'appel des prières et la régularité des cloches et ou des rituels collectifs, hein, la mort, les naissances, les baptêmes, les mariages. Mais c'est vrai que on s'est dit que cette chose qui sonnait, quand on passe 3 jours collectivement ensemble, on en avait besoin. On avait besoin du même repère. Et que l'oreille au Glovette, elle est très aiguisée. Parce qu'il y a cet amphithéâtre naturel que d'ailleurs Gaucha et Ernest, malheureusement, qui ne sont pas à la table avec nous, parce qu'ils sont en train de préparer une performance pour le Zénith, tout à l'heure à 13h39, s'efforcent de faire sonner. Et ce matin, à l'aube, ils ont fait sonner d'une sacrée manière. On avait l'impression qu'ils tiraient l'aube avec eux grâce à des instruments un peu comme un bourdon. C'était extraordinaire. Et je me suis perdue. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'était extraordinaire. Il y avait la rosée en même temps, on était sur une... C'était beau. Et ils ont fait une traversée comme ça. Ouais.
C'est super. Moi, je voulais rebondir sur ce grand écart esthétique qui m'a fait un peu rire. J'ai vu des petits rictus aussi autour de la table. Et pour les auditeurs, les auditrices qui ne connaîtraient pas vos démarches, est-ce que vous pourriez un peu, en parler et parler de ce grand écart.
C'est moi qui le dis grand écart. Eux deux, finalement, ils n'ont pas, pas senti le grand écart, je pense.
Non, parce que je pense que le travail esthétique d'un artiste, c'est parce qu'il... Je pense que c'est aussi une démarche et un engagement. Et moi, mon médium principal, c'est la performance. La performance est quelque chose, en tout cas, que j'aime pratiquer. Activer mon corps et me mettre dans quelque chose qui est proche de la catharsis, du total. Là, par exemple, ce matin, je me suis baigné dans une cascade glaciale. Et ça, c'est quelque chose où tout mon corps, je frissonnais, mes dents claquaient.
Je vais recontextualiser, parce que tu sais pas, tu t'es baigné dans une cascade, il y avait du public, tu as fait une performance pour une trentaine...
Je me suis juste baigné dans une cascade.
Une trentaine de marcheurs et marcheuses qui ont vécu des choses dans le paysage, et tout d'un coup... Il y avait cette apparition.
C'est
en fait, on a réglé vraiment dans le paysage ce personnage, cette naïade qui sort de la cascade. On parle du pont de l'amour.
C'est ça, au pont de l'amour. Et il y a le corps, il y a énormément de choses. Et finalement, notre processus de travail avec Théophile, je pense aussi, c'est... Donc esthétiquement, certes, c'est très différent, mais bon, l'esthétique... C'est presque rien, mais je pense notre rapport, le Théophile Feutré, moi je fais beaucoup de lutte, je viens des sports pour aller vers l'art, c'est la lutte olympique, où c'est quelque chose où la sueur, le travail, on se met dans le sol, on tourne des corps, on fait chuter, c'est pas un sport de combat, c'est vraiment c'est quelque chose d'immense, et en même temps avec des connexions et une histoire proche de l'histoire du feutre, puisque toute la lutte s'est transmise autour de la route de la soie. Et de voir Théophile au travail et comment il feutre, il y a un rapport corporel, gestuel, de la sueur. Il se met dans un état proche de la transe. Finalement, esthétiquement, oui, ça n'a rien à voir. Mais dans le processus, dans l'implication, dans la technicité, Théophile connaît tout sur son corps textile, sur cette matière. Moi, j'essaie de connaître le mieux possible par le corps, même des techniques de se mettre dans des états de transe, etc. Donc, finalement, c'est dans l'implication de nos deux travaux et de nos deux passions, mais des passions aussi dévorantes. Et on se retrouve là-dedans et c'est assez évident.
Ouais. Et c'est ça aussi, enfin, moi, je ressens aussi plutôt que ce grand écart, justement, une sorte de fusion aussi entre nous, parce qu'à la fois Clément, il me transmet des trucs de sa spontanéité sur la manière de vivre un moment, et à la fois moi je lui transmets aussi des gestes, et puis comme il dit, il faut être assez entier, quoi, quand on fait par exemple du feutre, même juste un chapeau, en fait, à un moment il faut. Il faut vraiment y mettre les mains et les bras et brûler les mains un peu avec l'eau chaude, tout ça. C'était vraiment... Enfin, c'est vraiment plus une complémentarité. Puis finalement, dans les esthétiques aussi, finalement, on était assez proches, je crois. Enfin, tout ça
complètement.
Se complète.
Ouais.
Enfin, moi, j'aime bien travailler, on dit, avec les matériaux naturels, tout ça, mais en même temps, je ne suis pas non plus puriste. Des fois, j'aime bien les choses rapides avec ce qu'on trouve, et Clément aussi, je crois. Et puis aussi, surtout, même quand je travaille ou quoi, ce que j'aime le plus, c'est m'amuser, rigoler avec les autres, tout ça, et faire des blagues, faire des farces, parce que c'est aussi un peu la thématique de cette édition-là. Et donc avec Clément, les farces, on rigole bien, on a bien rigolé.
Alors ça, nous, quand on programme les artistes, on suit, soit on les a rencontrés dans des expos, ou on a vu un travail posté sur les réseaux, ou bien on connaît les portfolios, et on ne sait pas si vous êtes des farceurs ou non. Et donc, cette chose-là, elle arrive après. Et ça, c'est la gourmandise d'une résidence d'artiste. C'est qu'en fait, on devient, pour un temps très court, une vraie colonie au travail, quoi, hein, ensemble. Et c'est vrai qu'il y a un sacré duo avec ces deux-là, quoi. Et ça, personne ne pouvait le prédire.
Pas nous, pas nous même. Personne. Sauf les astres, ouais. Éventuellement.
tu veux
aussi ça.
Non, ouais. Parce que là, ce qui se passe, c'est par exemple, ce matin, toi, t'as pris des feutres.
Ouais.
Ces feutres au pied pour faire ton personnage avec la couette sous la cascade. Et cette terre et tout ça. C'est... Donc vous avez fait ce moment ensemble, en fait.
En fait, on a Théophile me soufflait à l'oreille en automne. On va faire un feutre, on va faire un costume, etc. Moi, je trouvais ça trop beau pour être vrai, parce que je me dis, Théophile avait 50 000 choses à faire. Et Théophile a tenu promesse, il m'a dit, on va se faire ce costume. Donc, on a fait un costume de feutre qui a des caractéristiques exceptionnelles, puisque le feutre ne prend pas feu. Mais bon, ça, ouais, je ne vais pas non plus dévoiler ce qui peut arriver plus tard au feu de la Saint-Jean. Mais donc, ce matin, c'était une sorte de medley, de melting pot. À la fois, je suis sorti avec ma couverture de mon lit et puis j'ai mis ces chaussures en feutre.
Bah de ton lit, t'étais tout en... tu bavais.
De mon petit lit, ouais, je bavais un peu, etc. Mais je ne suis pas du matin.
Ça faisait vraiment autre temps, autre chose hein, autre que sortir. Mais il y avait cette couette.
Je veux bien recontextualiser juste rapido, parce que quand vous dites ce matin, Florie et Clément, c'est qu'en fait, on s'est levé, on a donné rendez-vous à 5h48 au rond-point des Glovettes, à notre public, pour marcher vers l'aube en son. Sur la proposition d'Ernest et Gaucha. Et en effet, à l'issue de la performance d'Ernest et Gaucha, dont on a parlé tout à l'heure, Clément arrivait avec ce personnage donc, que vous venez de décrire. Et en effet, c'est très beau cette année, comme ce n'est pas tout le temps comme ça, les solstices. Et cette année, on a des artistes qui réussissent. Vous avez dit le mot fusion. Et vraiment, on est dans... Les vocabulaires se mêlent, les artistes co-créent et collaborent ensemble sur des pièces, pensent ensemble, s'entraident beaucoup aussi. Là, dans la performance du Zénith, Ernest et Gaucha ont demandé à tous les artistes de participer. Donc, vous êtes vraiment dans la performance avec eux deux. Et voilà, c'est hyper plaisant à accompagner pour nous, en tout cas, l'association, quoi.
Eh ben super. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose à propos du programme ou de ce qui nous attend? Donc on a parlé d'un chaudron qui est apparu ce matin.
Le chaudron est apparu hier soir, on a tiré dessus, on va l'utiliser pour plein de belles choses, on va y mettre...
C'est ça, enfin moi j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est ce chaudron, c'est ce métal, les tickets d'entrée qui sont en laiton aussi avec des dessins et ces reflets. Et du coup c'est des rebondissements comme ça entre plein de d'espaces, de personnes. Enfin, le plomb qui a tiré sur le chaudron, il va rebondir, et puis le chaudron, il va devenir un récipient, puis il va être porté sur l'âne, et puis il va être porté sur le dos comme une sorte de soleil. Ouais.
Il y aura demain le banquet cantine, le grand final. Ah non, enfin avant demain en fait. Aujourd'hui, on a une journée de folie. On va avoir la performance au Zénith. On va avoir... qu'est-ce qui va se passer? Une sieste obligatoire pour se reposer un peu sur le fameux feutre de Théophile qui va être révélé à 16h30 en fait sur le rond-point. Venez voir ça, ça va être extraordinaire. Le feutre s'appelle La naissance du feu. Ensuite, il y a Perrine Bourrel et Robin Vargos qui nous font le plaisir et l'honneur surtout d'être avec nous sur le week-end de Stars du Rigaudon, qui vont donner un training de rigaudon. Prenez vos baskets pour rendez-vous dans la galerie commerciale pour une heure d'atelier. On a un bingo de production artistique et de produits du terroir animé par Maëlys Faure, une artiste grenobloise. Ça, c'est un rituel à nous, le bingo, en fait. C'est formidable. C'est sur le rond-point des Glovettes aussi. Et à 21h, on allume le feu de camp. À 21h29, le bal brut sur le bitume débute. Et puis à 22h30, il y aura une veillée pour descendre doucement dans le crépuscule avec des chansons et des instruments par Gaucha et Ernest. Et un grand final braisé avec ce fameux costume de feutre. Et on est accompagné par la librairie Les Modernes, la librairie indépendante grenobloise, qui est au studio 501, à la Travée 11-12 toute la journée. Et on a également un jeune apprenti tatoueur qui tatoue, qui fait des flashs de nos artistes, des tout petits dessins d'artistes, voilà, sur base de donations. Et le dimanche sera complètement ding-dong, avec un banquet cantine à 12h12 pour 75 personnes. Il reste très peu de billets, dépêchez-vous. Rendez-vous sur villaglovette.fr.
Oui, si vous écoutez sur les ondes de Radio Campus Grenoble et sur les ondes de Radio Royan-Vercors, il est encore temps de monter au frais. Il fait très frais ici, c'est quand même assez agréable de quitter la chaleur d'en bas pour petit à petit perdre quelques degrés. Et pour rejoindre toute cette belle programmation, c'est jusqu'à demain en fin de journée. Et un grand merci pour ce plateau, ces discussions.
Merci à vous.
Super. Merci Agathe pour cette nouvelle invitation. Merci Florie pour Radio Campus Grenoble. Mmh. Et merci à vous trois. Il y a Martin qui nous a quittés en cours de route, j'imagine, pour aller cuisiner.
Voilà, pour les banimis du Vercors, il y a des sandwichs qui se préparent.
Et donc, autour de la table, il y avait Théophile Péris et Clément Courgeon. Vous êtes tous les deux artistes plasticiens. Et pour toi, performeur, on peut suivre votre travail sur les réseaux, évidemment. Et il y avait également Arnaud Côté. Donc toi, tu es éleveur à la ferme des Rapies à Angin. Et on peut retrouver vos produits sur le territoire et en vente directe à la ferme, j'imagine.
C'est totalement ça, oui.
et merci beaucoup. On rend les ondes.